Salut, c'est Nicolas Mathieu dans Pop Pop Pop. Pop Pop Pop, c'est parti. Pop-popienne, pop-popien et tous les autres aussi, bonjour. Vous me connaissez, je ne suis pas quelqu'un de vaniteux. Je fais même partie de ces gens qui trouvent vaine la vanité et qu'il est vain d'être vain. Même s'il est vrai que cette émission mérite un bon 20 sur 20, j'ai su rester simple, modeste, accessible même. Pourtant, je pourrais largement me la péter. Hein. La preuve en est le prix Goncourt attribué à Nicolas Mathieu, que nous recevions ici le 18 octobre, ne tarissant pas d'éloges sur son roman « Leurs enfants après eux », exactement comme nous l'avions fait un an plus tôt avec Olivier Guèze pour la disparition de Joseph Mengele. Quel est prix Goncourt 2017. D'ailleurs, écoutez comme nous terminions cette fameuse émission du 18 octobre. Merci Nicolas Mathieu, et sans vouloir vous porter la poisse, je suis prêt à parier gros qu'il sera pour vous ce fameux prix Goncourt, n'est-ce pas Charline ?
Oui Antoine, pour moi aussi c'est Nicolas sans hésitation.
Alors de là à penser que le jury Goncourt écoute finalement Pop 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 et suit à la lettre nos prescriptions, il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas, par humilité bien sûr, mais aussi et surtout parce qu'ici nous sommes insensibles à la vanité, quand bien même elle serait bien compréhensible pour une émission qui a plus que doublé l'audience de sa case en la rajeunissant, sans exclure pour autant la célèbre ménagère de moins de 50 ans, mais aussi la maman de la dite ménagère qui l'écoute plein pot du fond de son EHPAD, contrairement à sa fille qui l'écoute elle sur son iPad. Oui, une prouesse, et je cite ici notre bien-aimée patronne Laurence Bloch, ouvrez les guillemets, qui est à la fois un tour de force et une éblouissante réussite radiophonique, fermez les guillemets. Bref, vous avez tous fait le bon choix, quitte à en faire rosir notre légendaire modestie.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine Decaune.
À mes côtés, Charline Roux, l'autre visionnaire de cette émission. Bonjour Charline.
De quelle modestie était-il question ? Bonjour Antoine.
Au menu de Pop Pop Pop, on parle tout à l'heure d'un livre pop, c'est normal, hein, dans Pop Pop Pop, me direz-vous. Ce livre pop s'appelle justement Le Grand Livre du Pop, et ça fait beaucoup de... Alors que l'émission n'a démarré que depuis deux minutes. Bref, ce sera tout à l'heure, mais avant cela, intéressons-nous à un photographe pop, lui aussi, dont j'ai découvert le travail quand il prenait un malin plaisir à malmener sa grand-mère pour la faire poser en super-héroïne. Bonjour Sacha Goldberger.
Bonjour.
C'est malin.
Écoutez, enfin, en même temps, ma grand-mère créait bien les choses. Elle a provoqué un certain nombre de photos et de conneries.
Oui, oui, elle a participé activement. Hein. Ouais. Elle y a pris un certain plaisir, j'ai même l'impression.
Je pense que oui, je pense qu'elle n'y est pas pour rien. J'aimerais dire que tout est de ma faute, mais non, je crois que...
Bon, et ici, c'est exactement pareil. C'est la plus jeune qui maltraite quotidiennement les vieux. Et pas que pour les faire poser en super-héros, n'est-ce pas, Charline?
Uniquement parce que vous ne voulez pas porter les collants que je vous ai offerts.
Enfin, hein, bref, Sacha Goldberger, ici, il existe une question qui fait encore plus mal à la pop culture que les clichés d'Afida Turner posant avec des cache-tétons léopards. Et cette question, c'est... Pour vous, c'est quoi la pop culture? Alors, pour être... totalement honnête, hein. J'ai eu des réponses étonnantes, stupéfiantes, saugrenues, rigolotes, indéchiffrables, et parmi mes préférées, il y a justement celle du tout nouveau prix Goncourt Nicolas Mathieu. Écoutez.
Je crois que la pop culture, ça commence avec un truc tout simple, ce qui est l'invention de l'argent de poche, en fait. Mm-hmm. C'est né avec les ados américains après-guerre. Je crois que si on leur avait pas filé d'argent de poche pour aller voir Elvis, pour aller voir des films de la MGM, il y aurait jamais eu de pop culture. Et moi, ce que j'ai fait avec mes premiers sous qu'on m'a donné comme argent de poche, je suis allé acheter La Bamba et un album, je me souviens, de A.A., Take On Me. Et puis après, je suis allé voir tous les Rambo les uns après les autres. Voilà, c'était comme ça que ça a marché pour moi, la pop culture, avec ce qu'il y avait dans mon porte-monnaie.
Voilà donc pour Nicolas Mathieu et pour vous, Sacha Goldberger.
Alors, écoutez, je vous avoue que cette question m'a taraudé, je me suis... posé pas mal de justement, je me suis dit qu'est-ce que c'est pour moi. Alors j'avais des images comme ça, je me suis dit une paire de chaussettes Burlington peintes par Rembrandt, ça pouvait être une réponse possible. Après je me suis dit que Pierre Richard, qui est un type que j'aime beaucoup, ça pouvait être aussi une réponse possible. Et puis finalement, je pense que c'est pas ça ma réponse, c'est que quelque part dans mon travail, mélanger Rembrandt avec les super-héros et essayer d'avoir une imagerie, je pense que c'est assez pop. Et finalement, cet art, enfin, moi je suis fan de Rembrandt, qui est quand même un artiste avec un grand A. Et puis les super-héros, ça reste une culture très populaire. Je pense que le mélange des deux et les contrastes, c'est peut-être ça pour moi, la pop culture, finalement.
Ça nous semble 100% pop culture, nous.
Tout comme Pierre Richard en Burlington.
Absolument.
Qui marche aussi.
Alors écoutez, je développerai peut-être après, mais je viens de prendre une photo de Pierre Richard habillé en Louis XIV est en version futuriste et il est en Mazarin et la photo elle est exceptionnelle. Mmh. C'est-à-dire que j'ai rarement vu un type aussi brillant aller aussi vite. Il était devant ma caméra et on a fait des photos pendant 15 minutes et en 15 minutes j'ai une image de lui qui est juste exceptionnelle.
Bien, de la photo, on va en parler en long, en large, en travers dans cette émission. Sacha Goldberger, on va aussi parler de pop, de culture, de pop culture, mais juste, ça sera juste après un morceau de la chanteuse Mélissa Lavo, un morceau qui s'intitule « Cousin ». Haïti téléphone maison, la pop haïtienne de la chanteuse Mélissa Lavo dans Pop 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 avec le morceau Cousin.
Ouais, donc elle est de Marseille.
Un peu de Marseille.
Plus cher.
Bon, vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui en compagnie du photographe Sacha Goldberger. Et pour une fois, c'est nous qui allons tirer votre portrait, mon cher Sacha. C'est l'heure de votre pop portrait. Alors votre pop portrait, c'est votre portrait, mais...
À base de pop, 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 pop.
Et c'est signé Charline Rurr.
Aujourd'hui, nous recevons le code quantum de la photo, le Dr. Wu de la compo, le Marty McFly de l'expo, soit un artiste qui voyage dans le temps. En témoigne en premier lieu son parcours, entre publicité, puis retour aux études, puis nouvelle carrière, le continuum espace-temps classique, très peu pour lui. Idem pour son travail. Enfin, quand je dis travail, j'entends plutôt super production photo. Elle navigue entre ici et maintenant, et ailleurs et avant, et même des fois dans le futur, et même parfois... Tout ça en même temps. À l'instar de Mamika, sa première super-héroïne de grand-mère et de ses super-héros américains, revus et corrigés à la mode flamande, ça s'appelait Super Flemish, de l'Amérique des années 50, dont il inverse les rapports temporels et familiaux avec Meet My Mom, dans lequel les enfants portaient leurs parents sur leur dos, et évidemment Secret Eden, 17 diptyques d'époques différentes et 50 portraits. Rendez-vous aujourd'hui dans le passé, non, peut-être même dans le futur, on ne sait pas trop, avec des gros moments de présent dedans pour Louis XIV, dans l'intimité de Louis XIV et de sa cour, mais à la mode de chez Sacha Goldberger.
Mmh. Le Marty McFly de l'expo, ça vous va ça?
Ouais, pas mal, pas mal. Bon portrait, je prends.
Bien. Sacha Goldberger, à mon tour de vous faire passer dans mon labo pour vous fixer dans la pop culture, c'est l'heure de votre pop list. Hop. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique, une série culte. Et pour le livre, vous avez porté votre choix sur Les Lamentations du Prépuce de Shalom Auslander, paru en août 2009. Charline, vous n'avez pas de prépuce, enfin je crois, ce qui ne vous empêche pas de vous lamenter parfois. S'agit-il uniquement de circoncision là ?
Non, pas que, Antoine. Les mémoires d'un jeune juif du New Jersey élevé dans la plus stricte tradition orthodoxe et qui partageait entre désir d'émancipation et besoin de racines le jour où l'enfant paraît, se demande quel sort réservé au prépuce de son petit.
Bien, alors Sacha, avant de nous dire pourquoi vous avez fait ce choix, pouvez-vous nous en lire un extrait s'il vous plaît ?
Bien sûr. Quand j'étais jeune, on m'a raconté qu'après ma mort, les anges m'emmèneraient dans une vaste maison de prière où se presseraient des centaines de milliers de juifs en train de prier et d'étudier. Juifs qui seraient venus au monde si je ne les avais pas tués, gaspillés, épongés avec une chaussette sale au cours de ma répugnante et inutile existence. Une éjaculation contient environ 50 millions de spermatozoïdes, à peu près 9 holocaustes à chaque branlette. Lorsqu'on m'a dit ça, je venais d'atteindre la puberté, ou la puberté venait de m'atteindre, de sorte que je commettais en moyenne 3 ou 4 génocides par jour.
Ça sent le vécu.
Écoutez, la chaussette, non, j'ai jamais testé la chaussette, mais je vous avoue que l'image de la chaussette me plaît beaucoup.
Qu'est-ce qui vous plaît d'autre dans ce livre? Pourquoi vous l'aimez tant?
J'ai découvert, alors le Shalom Ostender est en tout cas il est né orthodoxe, d'une famille orthodoxe, et est devenu publicitaire. Et finalement son histoire c'est l'inverse de la mienne, c'est-à-dire qu'il est parti, alors l'histoire est géniale, le mec est petit, il est orthodoxe, dans une famille orthodoxe, il apprend absolument tout ce qu'il faut pour être un bon juif, et puis son père boit, et il décide de tuer son père, et il se dit qu'il faut qu'absolument, et donc pour tuer son père, on lui explique à la synagogue et lors de ses études et à l'école que s'il se masturbe, eh bien ça va attirer les foudres de Dieu sur ses parents et en particulier sur son père. Donc tout d'un coup, il décide de se masturber, il vole un magazine porno et malheureusement, et ou heureusement d'ailleurs, son père ne meurt pas. Et donc au fur et à mesure du livre, il va commencer à découvrir le porc, manger du hot dog et il va s'éloigner de toutes ses craintes d'enfant. Moi, j'ai vécu le contraire, c'est-à-dire que moi, je viens d'une famille qui a vécu l'Holocauste, où on a dit qu'il fallait absolument se comporter comme tout le monde, être des bons catholiques, et j'ai été baptisé, mis dans des écoles catholiques. Et puis, petit à petit, j'ai compris que finalement, enfin, on m'a assez vite rappelé que j'étais un sale juif, et donc j'ai fait le chemin inverse. Alors, je suis pas devenu orthodoxe, je ne me masturbe pas non plus, enfin, en tout cas pas dans des chaussettes. Voilà. Et la façon dont on s'est écrit, j'ai trouvé que tout le chemin de cet écrivain était assez touchant. Je trouve que c'est très drôle. C'est-à-dire que le livre est à mourir de rire. Il a écrit un deuxième bouquin qui s'appelle Dieu est méchant. Enfin, il en a écrit plusieurs, qui est un livre de nouvelles qui est aussi extrêmement drôle. Et je trouve que voilà, sa vision du judaïsme est pour moi assez amusante et vaut la peine d'être lue.
Ça s'appelle Les Lamentations du Prépuce de Shalom Auslander. Et retenez bien la leçon, les enfants, c'est pas parce que vous vous pignolez que votre papa va passer de vie à trépas. Bien, maintenant nous allons passer au film. Film culte, Sacha Goldberger. Et ce film, c'est Big Fish, ou la légende du gros poisson, en québécois. Un film de Tim Burton avec Ewan McGregor, sorti en 2004. Charline, de quoi ce gros poisson-là est-il le nom?
C'est un film de Tim Burton sans Johnny Depp en perruquet. Et là, c'est la fête. Pas de Johnny, mais un merveilleux Albert Finney dans le rôle d'Edward Bloom, père malade racontant sa vie à son fils revenu à son chevet. Un fils qui a bien du mal à démêler le vrai du faux parmi les aventures fantasques que lui raconte son père. Aventures dans lesquelles Edward Bloom, jeune, est incarné par Ewan McGregor. Ça vaut tous les Johnny maquillés.
In telling the story of my father's life, it's impossible to separate fact from the fiction, the man from the myth. The best I can do is to tell it the way he told me.
If there was one thing you can say about it, Bloom,
was that I was intended for larger things.
Sacha Goldberger, que l'univers de Tim Burton vous convienne et vous plaise, je le comprends très bien en voyant votre travail photographique. Pourquoi ce Tim Burton-là en particulier?
Alors, il y a deux raisons. La première, c'est que toute l'histoire de ce film, c'est on est les histoires qu'on raconte. Et moi, ça guide ma vie depuis toujours, même avant que le film, je le découvre. J'ai toujours fait ça. Par exemple, ma grand-mère, on a fait énormément de photos avec elle en tant qu'un personnage qui s'appelle Mamika. Et finalement, elle est devenue cette femme des photographies. Ça, c'est la première raison. J'adore ce film parce que pendant tout le film, en fait, il va raconter à son fils et à sa belle-fille une espèce de vie incroyable, complètement imaginée. Enfin, c'est ce qu'on pense. Et puis finalement, à la fin, on s'aperçoit que tous les personnages dont il a parlé existent et que peut-être que ce soit la vérité ou pas la vérité, ça n'a pas d'importance. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, qui est beaucoup plus personnelle, un mois avant que le film ne sorte, mon père était très malade depuis des mois. Je me suis occupé de lui à l'hôpital, comme dans le film. Et il s'est évadé de l'hôpital pour retrouver ma mère. Et dans le film, à la fin du film, le fils va prendre son père et il va l'emmener, il va le kidnapper. En tout cas, il va lui raconter qu'il le kidnappe pour l'emmener. Mmh. Et quand j'ai vu cette scène, j'ai évidemment fondu en larmes et j'ai trouvé que c'était magnifique. Voilà. Et donc, pour ces deux raisons, ce film-là m'a touché et j'aime sa philosophie.
Bien. Sacha Goldberger, on poursuit avec votre série culte. Et cette série, c'est Westworld, une série créée par Jonathan Nolan et Lisa Joy, diffusée depuis le 2 octobre 2016 sur HBO. Charline, un western avec des vrais morceaux de robots dedans, c'est ça ?
C'est ça. Au départ, Westworld est un parc d'attractions dans lequel les visiteurs paient des fortunes pour revivre le frisson de la conquête de l'Ouest. Et ce, grâce à une armada d'androïdes bien dressés. Enfin, ça, c'est ce qu'on croit.
Do you know where you are?
I'm in a dream.
You're in my dream. I designed every part of this place. Not a theme park, but an entire world.
You and everyone you know were built to gratify the desires of the people who pay to visit your world.
Just don't forget, they're not real.
Westworld, pourquoi choisir ce parc d'attractions, Sacha Goldberger, plutôt que, je sais pas moi, le Puy du Fou par exemple?
J'ai été au Puy du Fou, ils sont très très forts. Mm-hmm. Ce que j'aime dans cette série, c'est que encore une fois une distorsion. C'est-à-dire qu'ils sont partis de la base du western, qui est, en tout cas moi, mon enfance, avec mon père, on regardait des westerns, pour l'emmener dans une espèce de futur. Et j'aime bien, moi, les paradoxes et les distorsions. On retrouve ça souvent dans mon boulot, les super-héros avec la peinture flamande, ouais. Louis XIV dans le futur. Et j'aime bien, et c'est très brillant. Enfin, je sais pas si vous l'avez déjà regardé, mais c'est la première saison, il faut rentrer dedans dans le truc, mais en fait, ils passent leur temps à nous emmener dans une direction et dans l'autre. Et je trouvais que d'avoir l'audace de pouvoir emmener le western dans le futur, c'était un truc que moi, j'aurais adoré faire. Voilà, j'aurais adoré faire cette série.
Trop tard.
Précision, pour ceux qui voudraient se lancer dans cette série, il faut vraiment être bien concentré. Hein. Ah ça oui. Tolère pas les 30 secondes de...
Mais il faut toujours être bien
non,
concentré.
Non, il y a des séries qui tolèrent mieux d'être regardées de manière plus distraite, mais là, c'est carrément...
C'est pointu, c'est très pointu.
Bien, Sacha Goldberger, terminons cette pop-liste avec votre chanson culte, et cette chanson, c'est celle-ci.
I wonder how many times you've been had, and I wonder how many plans have gone bad. Times you had sex, and I wonder, do you know who'll be next? I wonder.
I Wonder du chanteur Sixto Rodriguez, extrait de l'album Cold Fact, sorti en 1970. C'est la chanson ou c'est le destin extraordinaire de Rodriguez qui vous plaît?
L'histoire, elle est dingue. Mm-hmm. Moi, je me rappelle, je suis dans la voiture et puis j'entends ce morceau et je me dis, tiens, c'est marrant, c'est un mec là qui a copié Bob Dylan et ouais. Il le fait très très bien. Mm-hmm. Et puis tout d'un coup, on me dit, bah non, c'est pas récent, c'est un vieux truc. L'histoire de Rodriguez, elle est dingue. C'est-à-dire que le mec, toute sa vie, il a été pauvre et en fait, pendant ce temps-là, il vendait des disques.
Il devenait une star en Afrique du Sud.
Ouais. Exactement. Mm-hmm. Et moi, j'ai vu le film de nombreuses fois au cinéma parce que c'est comme un concert. Mm-hmm. Et cette chanson-là en particulier, je sais pas si vous avez vu le film, mais dans le film, ouais. Il monte sur scène et il arrive pas à chanter parce que les gens sont tellement dingues que je crois qu'il y a 10 minutes de contrebasse avec le refrain avant qu'il puisse se mettre à chanter. Et cette chanson-là, à chaque fois que je l'écoute, elle me donne des frissons. Et je trouve que l'histoire de Rodriguez, elle est extrêmement poétique et positive. Mm-hmm. C'est-à-dire que finalement, même s'il a galéré toute sa vie, il y a un moment donné où les choses reviennent.
Vous avez vu le concert parisien ?
Je l'ai malheureusement, je l'ai vu. Ouais.
Il n'arrivait pas à chanter non plus.
Non, je l'ai. Alors malheureusement, ça a été. J'y suis allé évidemment avec enthousiasme et malheureusement, il n'était pas très en forme ce jour-là. Mais je crois qu'il y a eu des concerts où il était plus en forme que celui où je suis allé.
Au mieux revoir Sugarman.
Ouais.
Bien. Alors, je résume les lamentations du prépuce. Big Fish, Westworld et Sixto Rodriguez. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça nous donne ça.
You know, if I could stay right here with you, I would.
They're not real.
I love you and I will marry you.
Il y a à peu près 9 holocaustes à chaque branlette.
Do you know where you are?
I'm in a dream.
I wonder.
Very old friends.
How many times you've been
no.
Had and
I wouldn't say friends, Dolores.
How many plans have gone bad?
Forget it, kid. Don't waste your time. She's out of your league.
You don't even know me.
Sure I do.
Lorsqu'on m'a dit ça, je venais d'atteindre la puberté, ou la puberté venait de m'atteindre.
Ben voilà, vous y retrouvez dans cette tambouille de pop culture.
Complètement, complètement. C'est très très américain quand même, hein, en fait. Je m'aperçois que...
Vous le confirmez.
Une espèce de déviance comme ça vers les États-Unis.
Bien, Sacha Goldberger, on continue à parler de tambouille de pop culture dans la suite de Pop Pop Pop, juste après la dernière pépite pop d'Arctic Monkeys. Ça s'intitule Tranquility Base Hotel and Casino. Tranquility Base Hotel and Casino, c'est dans Pop 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 sur France Inter et c'est signé bien sûr Arctic Monkeys. Nous sommes toujours en compagnie du photographe Sacha Goldberger. Sacha Goldberger, nous vous avons découvert avec Super Mamika, une série de photos dans laquelle vous faites poser votre grand-mère en super héroïne décalée, un travail de 8 années que vous avez compilé ensuite dans un livre, Mamika the Best. La première question, comment avez-vous réussi à convaincre votre grand-mère de poser avec un casque et une cape de super héroïne ou encore de se servir de son Yorkshire pour faire ses carreaux?
C'est pas venu comme ça. Je suis pas arrivé un jour en lui disant s'il te plaît, habille-toi. Il a fallu faire. On a fait ça par étapes. En fait, c'était pour mon site et je voulais que Elle représente mon site et je me suis dit je voudrais faire un site Woody Allen à la française. J'arrivais pas à me reconnaître dans l'humour juif séfarade français que j'aime beaucoup mais qui n'était pas ce que j'avais à la maison et je me suis dit il faudrait qu'on fasse un truc un peu comme ça, un peu ashkénaze, comme j'ai les blagues. Et donc je me suis dit que ma grand-mère serait le meilleur moyen de raconter tout ça. Donc je suis allé la voir un jour et je lui ai dit écoute j'ai un site. Elle venait d'arrêter de travailler et à l'époque ses questions c'était systématiquement elle me disait quand est-ce que tu viens déjeuner. Et je lui ai dit, écoute, j'ai une idée, j'aimerais faire une photo avec toi. Est-ce qu'on pourrait faire une photo de toi en train de téléphoner avec une bombe de lac à cheveux? Et ma grand-mère m'a regardé, et dans ses yeux, il y avait écrit « pauvre type ». C'est comme ça qu'on dit chez moi, « pauvre type ». Et elle m'a dit si tu veux. Alors on a fait la photo, et au lieu de juste de poser, elle a commencé à parler à sa bombe de lac à cheveux avec sa meilleure copine. Comme si... Et la photo était géniale. On a posté ça sur Internet, et du jour au lendemain, il y a des centaines de gens qui lui ont écrit qu'elle était magnifique. Et donc, on est passé de « mon chéri vient déjeuner avec moi » à « mon chéri, quand est-ce qu'on fait des photos ?»
Mais avant même le retour des gens, comment est-ce qu'elle a réagi quand elle s'est vue, elle, dans cette mise en scène?
Ça l'a fait marrer. Ouais. Ça l'a fait marrer. Et après, la deuxième photo qu'on a prise, c'est une photo avec le casque. Et elle a dit, c'est mieux parce qu'on ne voit pas mes cheveux.
Et question d'ordre pratique, c'est efficace, un Yorkshire, pour nettoyer les carreaux?
Ça a été très compliqué parce que je lui dis, l'idée c'était que chaque jour j'arrivais en lui disant j'ai une nouvelle idée, on va faire ça. Et systématiquement elle disait d'accord, si ça te fait plaisir. Et un jour je lui dis écoute, il faut absolument que tu t'essayes de nettoyer les carreaux avec le Yorkshire. Et le Yorkshire se mettait à trembler et elle me regardait, elle me disait il tremble, ça se voit à la photo.
C'est d'ailleurs elle, la fameuse Mamika, qui vous a soufflé quelques idées de clichés comme celui où elle repasse un chien. Mamika, c'est elle.
Tu es mon gars préféré.
Ton gars préféré?
Mon gars préféré.
Ah ouais?
Oui.
Et pourquoi?
Parce que les autres sont moins bien que toi.
Ben, si tout le monde pensait la même chose que toi, ça irait bien alors.
Oui.
Et pourquoi tu penses ça?
Parce que tu as parlé des amitiés préférées.
Ah, tu veux dire que je suis ton ami préféré?
Ah oui.
Mais toi, t'es mon amour préféré.
Ça, c'est mieux.
Mamika, et vous, Mamika, c'est une mamie pop, enfin pardon, la mamie pop?
C'est possible, ouais, parce qu'elle est totalement décalée. Ma grand-mère, c'est une baronne hongroise, juive d'Europe centrale, extrêmement élégante. Et elle a vécu la guerre, elle n'a pas été déportée, mais son père a été déporté, enfin, elle a été cachée, etc. Et quand je lui ai dit, écoute, est-ce que ça te pose un problème là, de poser comme ça en cap? Elle me dit, oh, tu sais, j'ai vécu tellement de choses. Et donc, je crois que dans les photos, justement, il y a une espèce de décalage entre cette femme très élégante, ouais, et puis finalement, ses costumes qui sont assez kitsch, et d'une autre époque. Et puis, j'ai essayé de faire des images qui pouvait montrer des choses humoristiques et en même temps de façon élégante. C'est ça je pense qu'avec des photos élégantes et bien éclairées et bien mises en scène, on peut raconter tellement de choses.
Bien sûr. Aujourd'hui, Sacha Goldberger, vous revenez avec un nouveau projet intitulé Louis 114, un projet dans lequel vous faites poser Vincent Pérez en Louis XIV, Mathieu Chédid dans Lully, Amira Khazar en Marie-Thérèse d'Autriche, Pierre Richard en Cardinal de Mazarin et évidemment Mamika. C'est venu d'où cette idée?
Alors, il y a 2 ans, je me suis dit, vous savez, j'ai fait une série sur les super-héros flamands, ouais, qu'on a beaucoup vu, on a beaucoup parlé, et je me suis dit, mais moi, je suis pas...
C'est-à-dire les super-héros en costume, voilà, flamand, dans la lumière de la peinture flamande, tous avec un air un peu désolé.
Exactement. Je dois développer de façon assez rapide là-dessus, en réalité, les super-héros américains n'ont jamais de temps pour eux. C'est-à-dire qu'ils sont invincibles. Enfin, c'est l'Amérique, l'Amérique. Et puis nous, notre culture européenne, elle est plutôt dans la sensibilité. On se regarde le nombril. Il y a comme ça une espèce de désespoir. Et donc l'idée, c'était de mélanger les deux. Et effectivement, donc j'ai pris tous les super-héros de mon enfance. Donc on a Lou Ferrigno pour Hulk. Il y a Superman, tous ces personnages-là.
Batman.
Et on a créé, avec Jackie Tadeoni, avec qui je bosse, qui fabrique des costumes, on a créé les costumes sur mesure pour eux. On a fait un casting pour avoir des gens qui ressemblent exactement. Et on les a fait poser à la manière de Rembrandt, avec la lumière de Rembrandt. Et c'est vrai que tout d'un coup, pour la première fois, ces super-héros, au lieu de sauver le monde, ils se regardent un peu et ils ont un petit peu un côté un peu désespéré, comme on peut retrouver.
Ouais,
un peu comme on peut retrouver dans la peinture flamande.
Absolument.
Voilà. Et Louis 114, je me suis dit, écoutez, j'ai fait ça, mais sauf que moi, je suis français, que je suis fan de Versailles, je suis fan de cette époque beaucoup plus que de la peinture flamande, et je me suis dit que ça serait intéressant de travailler là-dessus. Et donc, il y a 2 ans, je me suis dit, mais comment serait le futur imaginé par Louis XIV et ses contemporains? Et ça a commencé comme ça.
Voilà. Alors, tous ces noms qu'Antoine a cités, de Vincent Pérez à Amira Khazar, en passant par Mathieu Chédid, sur quels critères est-ce que vous les avez castés? Est-ce qu'ils vous ont rapidement dit oui? Et surtout, est-ce qu'il n'y a pas eu trop de jalousie à l'encontre du roi Pérez? Tout le monde a voulu être le roi, j'imagine.
Alors, on est toute une équipe. Là, il y a 70 personnes qui ont bossé sur le projet. On a fabriqué tous les costumes, les coiffures. On a fabriqué, imaginé, dessiné des objets. Enfin, c'est titanique, titanesque, cette histoire. Et en réalité, on a construit, on a décidé d'avoir 25 personnages. Chaque personnage, on a choisi les gens avec qui on voulait travailler. J'ai Pierre Richard en Cardinal de Mazarin. Alors, effectivement, Jean Rochefort aurait pu faire le personnage aussi. Ouais. Moi, je suis fan de Pierre Richard, donc j'ai pris des gens que j'aimais et j'ai d'abord cherché les personnages. Donc, on a la Vallière, enfin, on les a tous. Et après, je me suis dit, voilà, qui va rentrer le mieux? Et puis, on rentre en contact soit avec les gens directement, soit avec leur attaché de presse, soit avec leur agent. Beaucoup ont dit oui. J'étais assez surpris parce que beaucoup connaissaient les super-héros, avaient vu que, je pense que moi et mon équipe, on travaille sérieusement. Donc, beaucoup ont dit oui. J'ai eu quelques refus, malheureusement, mais je ne désespère pas parce que j'ai prévu de faire une suite dans le château de Versailles.
Alors vous avez fait défiler une partie du cinéma français devant votre objectif et ça n'a pas échappé à Dominique Besnéard, ex-agent de star et producteur de la série 10%, qui a tenu à vous laisser un message. Écoutez.
Oui, bonjour, c'est Dominique Besnéard. Je voulais parler de Sacha Goldberg. Je rappellerai.
Oui, du coup, il rappellera, je pense. C'est mieux. Les sujets les plus faciles à gérer, à photographier, ou en tout cas ceux qui vous inspirent le plus en tant que modèle, les acteurs, les mannequins, les anonymes ou Mamika? Parce qu'elle est de tous les projets, quasi.
J'ai pas répondu tout à l'heure sur Mamika, elle peut pas ne pas faire partie de mes projets. En réalité, je vais vous dire, sur Louis XIV, il n'y a pas de place pour ma grand-mère. C'est-à-dire que chaque personnage a été écrit, sauf celui de ma grand-mère. Et puis, j'ai été voir mon équipe et je leur ai dit, c'est pas possible de pas la faire. On est obligé de faire une photo d'elle. Et donc, on a été choisir des vêtements pour elle de manière à ce qu'elle n'ait pas à se déshabiller, pour que tout aille vite. On a fait une photo qui est juste dingue. La seule chose, c'est que je ne sais pas encore qui elle représente dans la cour de Louis XIV. Donc il va falloir maintenant, je vais devoir trouver quel est le personnage. Là, c'est le seul personnage où ça se passe à l'envers.
Sacha Goldberger, pour vous, s'engager dans une série photographique, c'est un peu comme s'engager dans l'écriture et la réalisation d'un long métrage. La seule différence, c'est que vous n'avez que quelques images pour raconter l'histoire. Est-ce que vous envisagez aussi la photo comme un art plus instinctif ou c'est vraiment ce cadre-là dont vous avez besoin pour vous exprimer?
Je prépare tout. On a, par exemple, le 814, c'est un an de préparation. On est quatre personnes. Il y a Ben Simon, avec qui je travaille depuis toujours, qui est graphiste, qui est dessus. J'ai des assistants. On travaille avec des modèles makers, avec des coiffeurs. Les photos sont faites avant.
Ouais.
Après, la seule, en général, dans mon travail, ce qui peut changer, c'est que chaque personne va amener quelque chose d'assez surprenant, et souvent les comédiens, ils nous ramènent une petite part d'eux, une faiblesse, une tristesse, une joie, qui va amener à la photo. Pierre Richard, il s'est mis à poser devant nous. Ça a duré très peu de temps. C'est l'image de lui, elle est incroyable. J'ai eu Aurélie Dupont que moi je vénère depuis longtemps parce que j'adore tout ce qu'elle fait. Elle avait une attitude de danseuse, sa posture était incroyable. Donc chacun, que ce soit des modèles, que ce soit ma grand-mère, que ce soit parfois des gens que je croise ou des comédiens connus ou pas, ils amènent tous quelque chose de différent.
Pour la réalisation de cette série qu'on peut qualifié de pharaonique, même si c'est encore une fois un peu hors temps. Vous avez mobilisé énormément de gens et du coup, pour la financer, vous avez lancé un appel, sauf erreur de ma part, à financement participatif, costume, lieu de shooting, etc. Un appel à don à l'issue duquel vous précisiez, si vraiment votre générosité dépasse nos espérances, nous offrirons un stage de 12 sauts à l'élastique à ma grand-mère Mamika pour fêter l'occasion. Nous hésitions entre les sauts à l'élastique et un stage de pole dance. Alors aujourd'hui, Sacha Goldberger, les participants veulent savoir.
Alors malheureusement, on a pas. Alors j'ai acheté la barre. Voilà, elle est chez ma grand-mère, elle attend. Mais malheureusement, le financement, c'est moi qui l'ai fait intégralement. Voilà, et
Vous pouvez lui donner des cours, vous, peut-être.
Mais on en parle assez souvent. Le saut élastique, ça n'a pas fonctionné.
Non.
Mais la pole dance. En chaise roulante, ça peut fonctionner.
Sacha Goldberger, où peut-on voir votre travail?
Alors, sur mon site. Voilà. Vous pouvez voir sur mon site. Louis 114, c'est pas encore visible.
Donnez l'intitulé de votre site.
Alors, c'est sachagoldberger.com. Vous pouvez voir toutes les séries, sauf celle de Louis 114 qui est pas encore, qui est en préparation et je suis aussi en train d'envisager de faire la suite. Voilà.
Bien. Allez tous jeter rapidement un coup d'œil là-dessus. C'est juste sublime.
J'ai juste une petite question subsidiaire. Dans quel genre de mise en scène vous verriez Antoine de Caunes?
Écoutez, alors, on en a discuté avant, parce que pour vous dire la vérité, j'avais envie de le prendre dans la série. Il m'a parlé de Pompadour et...
La Pompadour.
Évidemment, mais la oui. Pompadour, et on y pense, ça peut être une très bonne idée.
Très bien, on va réfléchir. Sacha Goldberger,
vous savez faire plein de choses, est-ce que vous savez faire ça?
Alors, pour vous dire la vérité, j'ai essayé, et c'est une catastrophe.
Ouais, allez, ouais, c'est vraiment une catastrophe. C'est pas grave, c'était juste pour lancer les pop.
Tout sur tous les jours de l'année, selon des sources contradictoires. Fin de citation, c'est le sous-titre de l'Almanach 2019 du Gorafi, le site d'info parodique, enfin parodique paraît-il. Sachez donc que le 2 janvier, c'est la Saint-Rintintin et également la journée internationale de victimes des chansons de Michel Sardou, que le 22 juillet, jour de la Saint-Franck-le-Bœuf, est aussi le jour de l'ouverture à la chasse aux Jérômes, et qu'à la page du 14 avril, vous trouverez l'édito de Francis Lalanne, soit, ouvrez les guillemets, non, je n'écrirai pas l'édito dans un livre, car un livre, c'est du papier, et le papier, c'est le sang des arbres qui pleure entre vos mains, fin de citation. L'Almanach 2019 du Gorafi s'est sorti aujourd'hui chez Flammarion.
Événement lors d'un concert au profit des vétérans américains. Comme tous les ans, Bruce Springsteen s'y produisait et il a invité un homme à le rejoindre, le countryman Eric Church, un homme connu pour avoir composé en 2011 une chanson intitulée Springsteen. Oh. Ben, ça méritait bien une invitation. Ah, quel homme ce Bruce.
Coup de cœur aujourd'hui est inédit, pop, après avoir reçu le Goncourt avant qu'il ne soit dévoilé. Découvrez Ettore Grande, artiste de Kerkeren révélé par la Gaule d'Antoine, dont voici la toute nouvelle production, soit une reprise de La vie est belle d'Indochine, mais en italien, La vita è bella.
La vita è bella e brutta qualche volta, quando tu non ci sei più, ma sono qui per essere con te.
Son nom, retenez-le, c'est Ettore Grande. Merci Antoine pour cette découverte.
C'est toujours un plaisir.
France Inter. Pop. Antoine Decaune.
Oui, c'est moi.
Ettore.
Oui, merci Charline. Sacha Goldberger, avant de parler du grand livre du pop avec son auteur Jean-Bernard Hébet, écoutons un artiste qui a marqué cette pop culture, David Bowie. Et le morceau, c'est Rebel, Rebel.
Trap!
Rebel Rebel, c'est un morceau de 1974, extrait de l'album Diamond Dogs de David Bowie. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes toujours en compagnie de Sacha Goldberger, et vient de nous rejoindre Jean-Bernard Hébet. Bonjour Jean-Bernard Hébet.
Bonjour Antoine de Caunes.
Vous publiez avec Christian-Louis et Climont 2 kg 2 de pop culture dans un livre que j'ai ici. Regardez. Ah, et ce livre, c'est le grand livre du pop, et c'est édité chez Marabout. C'est un festival visuel de tout ce qui a compté dans la pop culture entre 45 et 73. Alors avant d'aller plus loin, Jean-Bernard Hébet, vous le savez, ici il y a une question récurrente que je me dois évidemment de vous poser, et cette question c'est... Pour vous, c'est quoi la pop culture ?
Ah, d'accord, je croyais que vous me demandiez le son, je disais que c'était peut-être une ambulance qui venait me chercher.
Alors,
écoutez, on a fait un bouquin et un travail extrêmement sérieux sur un sujet extrêmement léger, mm-hmm. qui aurait dû être léger. Donc je vais vous donner une réponse sérieuse, et donc peut-être un peu ennuyeuse, mais qui va vous raconter vraiment toute l'histoire. En fait, c'est la pop culture, c'est le basculement... d'un monde à un autre monde. Mmh. Il y a quatre origines. La première, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, tous les peuples d'Europe impliqués dans cette guerre ont été très déçus par leurs dirigeants, qui dirigeaient tout, mais qui prenaient que des mauvaises décisions, que ce soit culturellement, militairement, économiquement, machin. Donc il y a eu un rejet des élites qui dirigeaient le peuple. La deuxième raison, c'est que les parents ont fait beaucoup d'enfants à partir de 1945, ça s'appelait le baby boom, ouais. 900 000 naissances en 1945, dont je fais partie, et ça a continué après, comme quoi la frénésie sexuelle a été terriblement amplifiée par la guerre, et non seulement chez les juifs dans les chaussettes. Et puis, la troisième raison, c'est qu'il y a eu une révolution en Russie, qui a montré que le peuple pouvait se révolter contre les élites. Mmh. Et puis, le dernier point, c'est que les Américains ont débarqué en Europe et grâce au plan Marshall, ils nous ont inondés d'argent et ils nous ont amené le cinéma, la musique, la télévision, la société de consommation, tout ça. Mmh. Donc, du jour au lendemain, si on parle en France, mais en Europe en général, eh bien, le monde dans lequel nous vivions en Europe était un monde en noir et blanc, et on est passé à un monde en couleur, qui était le monde de l'Amérique. Donc à partir de là et à travers toute cette vague qui nous est arrivée des États-Unis, s'est créée une culture qui s'est adressée aux jeunes, et grâce, comme le disait Sacha tout à l'heure, à l'argent de poche, ils ont enfin pu décider de ce qu'ils allaient acheté. Donc, et on a eu le Tepaz qui permettait d'écouter une autre musique que papa-maman et patati et patala. 350 pages, 350 images, vous trouverez tout ça dans le livre.
Jean-Bernard Hébet, dans le livre, vous citez la définition du pop art de Richard Hamilton qui est celle-ci. Un art populaire, éphémère, jetable, bon marché, produit en masse, jeune, spirituel, sexy, plein d'astuces, enchanteur et qui rapporte gros. Mmh. On est près de l'os là.
Ah non, mais on y est, exactement fait pour ça. Je veux dire, bon, le phénomène le plus important pour ça, et en tout cas le plus lucide et le plus honnête, c'est Andy Warhol. Andy Warhol qui dit, qui peint des dollars et qui dit, oui, moi je fais ça pour de l'argent. Et son rêve, c'était d'être salarié. Je l'ai rencontré une fois, je lui ai dit, mais quel est ton rêve dans la vie ? Il m'a dit, moi, ce serait d'être salarié. Je trouve ça formidable, quand même, de la part d'Andy Warhol.
Je note le jeune, spirituel et sexy.
Ah, vous prenez ça pour
moi, là. Oui.
Pour toute cette tablée.
Est-ce que, bon, si c'est une bonne définition, on peut maintenant aussi décider d'arrêter de casser les pieds à tous nos invités.
Je sais pas.
J'ai l'impression qu'on l'a cette
définition. C'est un peu sadique,
bon. Pourquoi s'arrêter en 1973, année du premier choc pétrolier? Et là, vous allez me dire, la réponse est dans la question, non?
Pas du tout. c'est-à-dire que je suis désolé de vous contredire, mon cher Antoine. En fait, ça commence en 43. Le pop, et ça finit en 73. C'est les 30 ans qui vraiment ont basculé le monde.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de pop culture ?
Il y a une autre pop culture qui est devenue la culture mondiale. Mmh. Elle ne sépare plus les jeunes. Je veux dire, les mamans veulent ressembler à leurs enfants, les papas veulent faire jeune à tout prix, ils mettent des baskets au lieu de mettre des chaussures en cuir. Tout ça est mélangé. Il y a une autre culture qui est en train de se construire, qui est la culture urbaine, de la voyoucratie urbaine et périphérique, si vous voulez. Mais à l'époque, il y a vraiment une grande différence. Et ce qui a fait que la pop culture s'est arrêtée, c'est l'arrivée du punk, où brusquement les Sex Pistols se sont dit ça suffit, ce qu'ils appelaient les boring old farts, c'est-à-dire les ennuyeux péteurs, qui étaient les, pour eux, Eagles et tout c'était fini, et donc God Save the Queen, voilà, le punk est arrivé, donc fin du pop.
Moi j'ai juste une question d'ordre linguistique, le livre s'appelle Le Grand Livre du Pop, on parle de la pop culture, pourquoi le passage au masculin?
Parce que quand on dit, moi c'était toute ma hantise en faisant ce livre, c'est qu'on dise, ah là là, Jean-Bernard Hébé, il a fait le clown pendant 20 ans à la radio, il a passé de la pop musique, c'était un dangereux gauchiste qui passait de la musique de gens qui fumaient des
choses.
C'est
vrai, j'ai des photos de vous avec des cheveux très longs. Très
mais j'ai eu des les cheveux très longs, mais vous savez, il y a deux choses qui nous rapprochent terriblement. D'abord, c'est le bruit que vous faites, le petit jingle que vous faites. C'était quand nous avons eu à Europe 1, je travaillais encore là-bas à cette époque, c'est le premier jingle que j'avais.
Oh, il est parfait celui-là.
Mais il est parfait. Ah non,
refaites-le-moi, Jean-Bernard. Oh,
voilà. Non mais
c'est le plus beau pop que j'ai.
Non, depuis, c'est un. Depuis non mais c'est un émission. Métier, monsieur.
Prenez-en de la graine, Jean-Jacques Goldberger.
Et donc,
c'est du boulot encore.
Il y avait ça, et puis la deuxième raison, c'est que je me suis dit, mais tout le monde va dire, ah oui, il va faire encore un livre, pas moi, mais ça va encore être un livre sur la pop musique. Mm-hmm. La pop musique, ça fait partie d'un élément. Ce qui est très important, c'est que dans la pop culture, comme le disait Rimbaud, tous les sons, les couleurs, les odeurs se répondent. C'est-à-dire que il y a un fond musical, une bande originale qui est la musique, bien sûr. Mais enfin, on mettait dans le même paquet ABBA, Neil Young, AC/DC et Joni Mitchell. Donc tout ça avait absolument rien à voir avant que les tribus ne naissent, si vous voulez. C'était un seul truc qu'on appelait la pop musique et qui énervait terriblement nos parents. Là, j'ai voulu montrer que, en même temps qu'on écoutait cette musique, on s'habillait différemment, les publicités étaient différentes, ce que l'on consommait était différent, tout était différent. C'était
oui, c'est ça, parce que en fait,
un environnement.
On parle d'un livre, là, 2,2 kg, un grand format, un beau livre, magnifiquement maquetté, très illustré, mais en fait, c'est un livre sérieux, c'est un livre qui est une enquête sociologique sur toute la culture de ces années-là.
Écoutez, pour une fois, et à mon grand âge, j'ai décidé d'être chiant. Et donc, j'ai fait quelque chose. Non, on a voulu faire un truc très sérieux, vous l'avez vu peut-être au début. Nous avons dédié ce livre, Christian Louis et Climent, qui est mon alter ego, qui ne peut pas être là aujourd'hui, parce qu'il a écrit un autre bouquin en attendant. On a dédié ce livre à nos filles, parce qu'on voulait montrer à nos filles, Joséphine et Lucille pour moi, que on n'était pas que des connards à écouter AC/DC en fumant de la moquette. C'était, il y avait autre chose. Il y avait tout un autre truc.
C'est quand même
truc.
Pas commun, hein. Généralement, on essaye plutôt, quand on est parents, de montrer qu'on est super cool et qu'on a un potentiel à écouter AC/DC en fumant la moquette, mais vous, c'est le parcours inverse.
Non. Fallait leur montrer qu'il y avait autre chose. Et aujourd'hui, je les ennuie avec l'art contemporain, le design, l'architecture et tout ça. Il y a d'autres choses. C'est un monde. On a vécu un monde extraordinaire. En architecture, ce qui a été fait dans ces années-là a été extraordinaire. Le Guggenheim à New York, par exemple, le camembert sublime qui s'enroule comme ça, dans la photo, dans la mode, Twiggy, Courrèges, tout ça. C'est ça qu'on a voulu montrer. C'était un ensemble d'événements qui s'adressaient à une clientèle, il n'y a pas d'autre mot, qui était différente. Et je vais dire vraiment tout ce qui fâche, c'est que les élites qui jusque-là détenaient le pouvoir et la connaissance ont été balayés par le peuple, et le peuple a parfois très mauvais goût. Et donc, souvenez-vous, quand les Beatles sont arrivés, ils avaient un accent de Liverpool qui était comme si aujourd'hui on parlait avec l'accent ch'ti ou l'accent marseillais, et eux, ils ont dit, mais nous, on changera jamais notre accent parce que nous, on est populaire, on est extrait de la rue et on ne changera pas. Et toi, la reine là-haut, si tu, au lieu d'applaudir, t'as qu'à bouger tes bijoux pour nous dire que ce qu'on fait, c'est bien. Donc ça, c'était tout nouveau.
C'est un sujet absolument passionnant. Ça
d'ailleurs, couvre... je vais revenir pour vous en reparler
sûr,
quand vous voulez.
Et j'imagine qu'il y aura même un tome 2, parce que 1973-2018, il y a quand même des choses à raconter.
Oui, il y a du punk, il y a du rap. Moi, j'écoute que du rap, aussi bizarre que ça puisse paraître, parce que je ne vais pas continuer à écouter Neil Young, que j'adore, ou les Eagles, il y en a marre. Ça, c'était fait, c'était il y a 30 ans. Passons à autre chose. Moi, j'écoute Drake c'est... ou, je ne sais pas, Kendrick Lamar. Voilà, enfin, ou
ça s'appelle
choses.
Le Grand Livre du Pop de Jean-Bernard Hébé et Christian Louis et Climent, et c'est édité chez Marabout. C'est un livre magnifique. Bien, Jean-Bernard, Sacha, il est l'heure pour moi de descendre à la cave chercher le dernier vinyle de l'émission. Sacha, je vous emmène avec moi parce que j'ai une surprise pour vous.
Avec
vous êtes
plaisir.
Prêts? Allez, venez.
Allez, venez. Attention à la tête, hein. Je sais que vous avez une passion pour Ramon Pipin et son groupe les Excellents. Vous me le confirmez?
Ah oui, bon. Je vous le confirme.
Alors, passion que je partage, et juste pour vous, bah, justement, regardez. Ils sont dans ma cave. Vous les voyez?
Ouais, ouais,
ouais, je vois. C'est une exclue, et c'est juste pour vous. Salut les mecs, vous êtes prêts?
Absolument.
Bon. Alors, vous allez nous jouer quoi, alors, hein?
Quiche de Prince.
Ah ouais, quand même. Bon, allez-y. Sacha,
ah, je suis très fan, il faut les voir en concert.
Oui, oui, je sais, oui.
Le mec est complètement dingue, sa femme incroyable, elle se met à danser dans tous les sens.
On a un petit concert J'adore. Rien que pour nous, là, on en profite. Bon, vous avez quoi d'autre, les mecs? Vous auriez pas un Springsteen par hasard?
Né dans les États-Unis par Bruce Springsteen.
Ah, allez-y, allez-y.
Et quand j'ai eu 16 ans, je me suis acheté un gun. Que ceux que j'aime pas passent leur chemin, sinon sur eux sonnera le tocsin. Ouais, je suis né aux États-Unis d'Amérique. Je suis né aux États-Unis d'Amérique. Ouais, né dans les États-Unis d'Amérique. Je peux sortir mon gun, ouais, dans les États-Unis d'Amérique.
Né dans les États-Unis d'Amérique, du boss, massacré ici par les Excellents, hein, depuis la cave de Pop à Pop sur France Inter. C'était un petit cadeau pour vous, Sacha, parce que je sais que vous aimez beaucoup Ramon Pipin.
J'adore, j'adore, je suis hyper fan.
Allez, bon, maintenant, faut qu'on remonte. Allez,
on y va.
Je referme la trappe. Voilà, on est mieux ici. Sacha Goldberger, Jean-Bernard Rébet, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai l'impression de faire de ma cave un véritable musée. Qu'est-ce que vous aimeriez tous les deux laisser ici, symboliquement, Jean-Bernard?
Laisser ici?
Oui.
Mon numéro de téléphone pour que vous me rappeliez.
D'accord.
Et un objet?
Un objet. Vous avez une collection, vous avez des milliers d'objets. Un objet?
Oui. Je ne sais pas, une carte de l'Amérique, peut-être.
Ok. Et vous, Sacha?
Dans la série Louis XIV, j'ai fait, avec mon équipe, on a fait fabriquer un D2R2 version Louis XIV futuriste. Et je pense que je vous laisserai mon D2R2 futuriste.
Je le prends avec plaisir. Bien, merci Jean-Bernard Rébet. Le grand livre de la pop, c'est édité chez Marabout. Sacha Goldberger, rendez-vous sur votre site internet sachagoldberger.com pour découvrir prochainement la série de photos Louis XIV et puis tout le reste de votre travail. Merci à l'équipe de Pop à Pop, Clément Nouguier à la réalisation, à la technique Florent Beauvalet, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Hugo Combe et Simon Arestat, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka et Colin Gruel, notre stagiaire.